RMC, After Paris,
François Pinet.
After Paris à retrouver en podcast sur l'appli RMC, sur toutes les plateformes, vous le savez, sur YouTube et sur After Foot Télé, le 30 mai prochain, PSG-Arsenal, le PSG qui va affronter donc une équipe championne d'Angleterre. On le sait, pour la première fois depuis 22 ans, Arsenal a décroché le titre de champion dans cet épisode. On va se demander ce que ça change avant cette finale, quelles sont les forces et faiblesses de cette équipe et puis notre jeu qui est meilleur. Vous connaissez bien sûr maintenant le principe, on mixe les deux effectifs et on fait le meilleur 11. Vous pouvez déjà le faire en commentaire sur YouTube. Avec nous, bien sûr, la team After Paris réunie. Arthur Perrault est là. Salut Arthur.
Salut François. Bonjour à toutes et à tous.
Jimmy Brown est là. Salut Jimmy.
Salut François. Salut tout le monde.
Alors, un After Paris un peu plus cher parce qu'on a fait appel à Julien Laurence pour la première fois de l'année. Salut Julien.
Salut les gars. Vraiment un honneur pour moi de participer à cette émission mondialement connue.
Alors franchement, ça nous fait plaisir de t'avoir parce que c'est pas si simple de t'attraper. Mais là, c'est un peu le Laurencico. On est d'accord, PSG Arsenal.
C'est vrai, c'est un peu les deux clubs de la famille Laurence et ça a du pour et ça a du contre. Malheureusement, c'est pas aussi bien que tout le monde pense. Hein.
Bon, en tout cas,
je vais te dire, si je peux me permettre, pourquoi on accepte Julien dans ce podcast. On a fait exactement la même chose avant la demi-finale de l'année dernière. On avait convoqué Julien Laurence, exactement. Ça s'était très bien passé pour Paris. Bon, c'est juste pour ça qu'on l'a rappelé cette année.
Il avait pu dormir chez lui après le match.
C'est que ça.
Avec nous également, on est ravis d'être avec Benjamin, fondateur d'Arsenal France, groupe de supporters français des Gunners, qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Benjamin est avec nous, bonjour.
Bonjour à tous,
merci
de l'invitation.
Salut Benjamin.
Je ne sais pas si tu portes la chance au Paris Saint-Germain, on le souhaite. Hein.
Ah, ça, je suis pas sûr d'avoir la main sur quelque chose.
Ah bon. Bon, en tout cas, on va t'écouter attentivement pour nous parler de cette équipe d'Arsenal, pour nous la présenter, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi cette saison en Ligue des Champions et en championnat. Mais d'abord, une question, puisqu'on sait maintenant qu'Arsenal est champion d'Angleterre. Est-ce que ça change tout pour les Gunners avant cette finale? Ça permet déjà d'éviter un match décisif ce week-end, donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est très positif, j'ai envie de poser la question à Julien, que Arsenal ait remporté le titre quelques jours avant cette finale?
Ouais, je pense que ça change pas mal de choses. Alors, ça change pas tout, non, bien sûr, parce que sur le terrain, ce sera la même dynamique et la même bataille et tout ce qu'on veut. Mais je pense que psychologiquement, en tout cas pour les joueurs d'Arsenal, ça t'enlève une énorme pression sur les épaules. Si tu avais perdu le titre à la dernière journée, par exemple, contre Manchester City, que tu avais fini encore deuxième au classement, forcément, l'approche de la finale aurait été très, très différente. Là, il y a beaucoup moins de pression. On l'a répété souvent dans nos émissions, mais pour les Anglais, remporter la Première Ligue, c'est beaucoup plus important, surtout quand tu ne l'as pas gagné depuis 22 ans qu'une Ligue des Champions, même si tu ne l'as jamais gagné non plus dans ton histoire. Mais ça reste quand même la Première Ligue, la chose la plus importante. Donc, je ne dirais pas que la finale, maintenant, c'est un bonus pour Arsenal. Bien sûr qu'ils veulent la gagner, ils seront très motivés. Mais c'est vrai que ce titre de champion enlève quand même énormément de pression à ce qui aurait pu arriver dans le cas inverse.
Benjamin, tu partages l'avis de Julien?
Je suis entièrement d'accord avec lui. Là, ces derniers jours, la priorité ultime, c'est-à-dire que nous, quand on parlait entre supporters, on n'évoquait même pas la finale. On était vraiment la tête dans le championnat. C'était la priorité ultime, c'était de gagner le championnat. Maintenant que le championnat est passé, par contre, tout le monde a tout de suite les yeux rivés sur cette finale. Mais sportivement, oui, je pense que ça enlève... Enfin, pour moi, je n'irai pas jusqu'à dire que ça change tout, mais ça change énormément de choses. Là, les joueurs d'Arsenal, ils étaient... tous les suiveurs d'Arsenal, on voyait bien que l'équipe, elle était... J'ai même envie d'utiliser le mot terrifié. Ça veut dire que certains matchs, je pense au match de Newcastle, Julien pourra me confirmer, mais le match de Newcastle, certains matchs, il y avait une fébrilité au sein de l'équipe. Il y a des joueurs qui étaient méconnaissables. Et là, maintenant... j'ose espérer que maintenant que le plus dur est passé, c'est-à-dire qu'ils sont champions, c'est fait. Ce qui reste là, entre guillemets, c'est un beau bonus, mais c'est du bonus en fait. C'est-à-dire
après, si tu abordes une finale de Ligue des Champions, excuse-moi Benjamin, en disant c'est du bonus, tu peux te dire aussi à l'inverse que bon, bah, c'est pas si grave s'ils n'arrivent pas à gagner cette Ligue des Champions.
Non, moi je suis de ceux qui pensent que ça change énormément de choses. Il suffit d'entendre Benjamin quand il est arrivé, il a dit ça fait 20 ans qu'il a créé le groupe, il n'avait jamais été champion.
Il n'a pas vu un titre.
Donc là, tu passes de l'équipe de loser et t'aurais abordé la finale avec cette étiquette-là qui te poursuit, te mettre une pression de dingue, etc. Là, ça va complètement les libérer. Ils sont champions d'Angleterre. Qui peut croire qu'ils vont aborder ça comme le trophée de leur Community Shield? Non, c'est une finale de Ligue Ligue des Champions. Évidemment, qu'Arteta, en plus, au-delà de l'aspect psychologique, c'est juste dans la gestion aussi physiquement des organismes. Et on sait à quel point c'est important à ce moment-là, de la saison. Tu as un match contre Crystal Palace dimanche, tu ne l'abordes pas du tout de la même manière. Tu vas pouvoir tourner ton effectif, tu vas pouvoir préserver tes cadres, tu vas pouvoir arriver avec un maximum de joueurs à 100% pour cette finale. Donc ça redonne, je pense, énormément d'intérêt à cette finale et d'indécision aussi, parce que avant ça, moi je pense que le PSG était largement favori. Maintenant, je continue à penser, au regard de ce que j'ai vu cette saison et notamment de la performance bluffante des Parisiens en demi-finale, que Paris reste favori d'une tête, mais c'est beaucoup plus indécis que prévu. Ah oui, ça s'est rééquilibré.
Là, pour rejoindre Jimmy, en fait, et Julien, je pense, le confirmera et le sait mieux que nous, je pense qu'il maintenant, il se retrouve dans le même calendrier physique, au niveau de la récupération, de tout ce que Arteta va mettre en place, comme Luis Enrique est en train de le faire au PSG, pour que, en effet, tout cet effectif arrive à 100%. Et c'est là où il se retrouve quasiment au même niveau que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, pour moi, sur cette thématique-là, qui est selon moi vraiment la thématique la plus importante. C'est l'état de fraîcheur avant cette finale qui est importantissime.
Julien ?
Ouais, c'est vrai, le match, l'opposition amicale, par exemple, que Luis Enrique va organiser ce week-end au camp des Loges, au campus, j'ai encore la mauvaise habitude d'avant, c'est le match amical de Palace pour Arsenal. C'est pareil, voilà. Arteta il va traiter ce match de Palace, même s'ils reçoivent le trophée après, donc c'est forcément particulier. Mais sur le terrain, pendant les 90 minutes, ce sera un match amical.
Bon, alors rentrons un peu dans le détail justement de à quoi pourrait ressembler ce match. On a beaucoup parlé, et c'était cette semaine d'ailleurs, Arthur, tu y étais, il y avait un Media Day, donc un jour organisé pour la presse au Paris Saint-Germain. On a beaucoup parlé d'opposition de style entre le PSG et Arsenal sur cette finale. Bien sûr, je vais vous interroger, Julien et Benjamin, vous qui avez suivi toute la saison des Gunners. Écoutez d'abord ce que disent les joueurs du Paris Saint-Germain, que ce soit Désiré Doué, Nuno Mendes ou encore Lucas Hernandez qu'on a pu rencontrer cette semaine, sur cette opposition de style à venir.
C'est une équipe qui a énormément de qualité et s'ils sont en finale, c'est qu'ils le méritent totalement. C'est sûr qu'on n'a pas le même style de jeu.
Nous, on a une différente manière de jouer. Eux, ils profitent beaucoup de ce qui sont les coupes arrêtées, les corners. Nous, on n'a pas des joueurs aussi grands pour faire ce genre de match, mais je pense que ça va être un bon match.
C'est deux jeux différents, mais c'est deux jeux qui payent aussi. Ils sont là en finale comme nous, et ils ont les mêmes chances que nous de pouvoir gagner la Ligue des Champions. Du coup, ça va être un match très important où il va falloir être concentré du début jusqu'à la fin, parce qu'à tout moment, ils peuvent te marquer.
Voilà, opposition de style, vous l'avez compris, ça a été répété. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, quand on voit l'affiche d'Arsenal en Ligue des Champions, il y a un chiffre qui est édifiant, c'est le nombre de buts encaissés. 6 buts encaissés seulement en 14 rencontres. Meilleure défense et de loin des équipes de Ligue des Champions. En comparaison, le PSG, c'est 22 buts encaissés en 16 matchs. En revanche, en nombre de buts marqués, le PSG est devant avec 44, devant 29 buts pour les Gunners. Opposition de style réelle, Julien, ou c'est une caricature de faire passer cette équipe des Gunners uniquement sur une équipe très, très, très défensive et dont la force est avant tout défensive?
C'est simplifier un peu les choses, mais ce qui est vrai, c'est que, et encore sur les 6 buts encaissés là, dans le graphique qu'on voit, dans l'infographie qu'on voit en Ligue des Champions, on a 2 contre Karat Almaty dans le dernier match de la phase de Ligue, ouais, avec une équipe B aussi. Donc en fait, tu peux dire qu'avec la vraie équipe, c'est juste 4 buts encaissés en 13 matchs. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. C'est pour moi, et Luis Enrique en a parlé un petit peu hier aussi, les joueurs aussi, c'est la meilleure équipe sans ballon au monde. Dans sa structure défensive, dans ce qu'elle fait sans ballon, dans la façon dont elle se regroupe, dont elle défend, dont elle presse. C'est très impressionnant et à ce niveau-là, Arteta a fait une machine. Après, oui, tu peux résumer ça en disant la meilleure attaque en Europe contre la meilleure défense en Europe, ça peut le faire. Il y a autre chose dans le jeu d'Arsenal, même au-delà des coups de pied arrêtés, dans ce qu'ils peuvent faire avec le ballon. Ce n'est pas aussi flamboyant que le PSG, ce n'est pas aussi fluide, il n'y a pas les mêmes automatismes, les mêmes permutations, les mêmes rotations, ça c'est sûr. C'est un autre style, mais c'est un style qui peut être très efficace avec le ballon aussi dans la surface adverse, autant que ça l'est dans leur surface à eux.
Ouais. Mais moi, pour rebondir sur ce que dit Julien, elle m'a beaucoup interpellé cette déclat de Luis Enrique quand il dit c'est la meilleure équipe au monde sans ballon. Ça m'a renvoyé à l'adaptation qu'il avait pu faire face au Bayern. On en a beaucoup parlé sur le fait que Safonov allonge notamment, etc. Et je suis en train de me demander, on a tous beaucoup vu cette séquence tournée de City la dernière fois qu'ils ont joué à Arsenal, en leur laissant le ballon, laissant ressortir de derrière, en les attendant un peu. Est-ce que j'envisage que Luis Enrique, je peux pas m'empêcher de penser ces images-là et que peut-être qu'il va envisager la rencontre en s'adaptant un petit peu et en laissant notamment le ballon à Arsenal et en essayant de les piquer, parce qu'on dit beaucoup que Paris, effectivement, c'est une machine très bien huilée dans les sorties de balles, dans la construction du jeu, etc., mais qui sont aussi capable et très très efficace dans la contre-attaque, dans la transition, dans la récupération haute, en 2-3 passes, d'arriver à se créer des occasions, à être clinique. Donc c'est en ça que je pense que l'opposition va être intéressante. Mais là, comme ça, à 10 jours du match, j'arrive pas à me dire qu'on va assister au PSG Bayern de l'année, par exemple, tu vois, surtout sur une finale. Je pense que ça va être quand même un match assez fermé et qu'il faut pas s'attendre. On a beaucoup de supporters parisiens restent sur le feu d'artifice de l'année dernière à Munich. Ah, tu gagneras pas 5-0 contre Arsenal. Je pense que je sais pas trop m'engager que de dire ça.
J'ai envie de demander à Benjamin, qui est supporter d'Arsenal, s'il aime cette équipe des Gunners, si tu aimes la voir jouer. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de critiques.
Elle vient d'être championne.
Boring Arsenal, du retour du Boring Arsenal, qui était l'Arsenal avant Arsène Wenger, hein, pour les plus jeunes. Et c'est vrai qu'Arteta, il a dû répondre à ce genre de critiques en disant bah, écoutez, nous, le but du jeu, c'est quand même de gagner. Et même si on gagne 1-0, ça fonctionne. On a vu parfois un Arsenal pas très flamboyant.
Mais moi, en fait, cette fin de saison, pour moi, elle montre le niveau exceptionnel de Mikel Arteta. C'est-à-dire, ouais, les 6 premiers mois, jusqu'on va dire à début janvier, ça joue très bien. Ça veut dire réellement, je vais dire vraiment le match, le Bayern, quand ils viennent à l'Emirates, la seconde mi-temps, on les balade.
Victoire 3-1.
Et ils viennent de gagner au Parc 2 semaines avant. Ça veut dire que ça jouait très bien. Une semaine après, on joue Tottenham, c'est la régalade, ça joue, on gagne 4-1. Je pense que Arteta, il s'est rendu compte à un certain moment, je pense, alors là je m'avance, mais je pense qu'autour du mois de février, il s'est rendu compte que l'équipe a commencé vraiment à peiner un peu physiquement. Et je pense qu'il a dû se dire, si je continue à jouer au foot, comme on l'a fait les 3 dernières années, on va dans le mur et ça passera pas. Et là où pour moi il a été fort, c'est qu'il a renié, c'est un grand mot, mais il est parti contre l'ADN de son équipe et l'ADN de son club pour se dire, et là ça lui a donné raison mardi soir, c'est que il fallait gagner. Le but, et il n'y a pas un seul, j'en connais pas, hein, je ne connais pas un seul supporter qui là est en train de se dire, ah mais le jeu, ah mais les corners, ah mais on a gagné le championnat, on attendait depuis 22 ans, on est passé près 3 ans d'affilée. Et même les joueurs, hein, je pense que là, si on demande à William Saliba, t'es content de ne pas avoir deux trucs.
Saliba, c'est un défenseur en même temps. Il adore ne pas prendre de buts.
Hein, même Dio Kéres qui vient d'arriver, je pense qu'il est content de ce qui s'est passé.
D'ailleurs, on en parlera des individualités. Un gros match contre l'Atlético de Madrid au retour sans marquer de but.
Pour rejoindre Benjamin, je pense que Arteta, il est victime quand même d'un procès assez injuste. C'est qu'il a été pragmatique sur la fin de saison parce que tu arrives à un moment donné où les mecs, déjà, ils sont un peu carbo physiquement. Ils sont dans la pression de se dire, est-ce qu'encore une fois, une énième fois, on va être les losers? Donc, exactement, évidemment, il a été pragmatique, s'est dit on ferme un petit peu. Mais l'équipe d'Arsenal sous Arteta, tu peux pas la résumer à Boris. C'est une équipe qui a beaucoup joué au foot.
Je suis tout à fait d'accord.
Et qui a des joueurs de très très grande qualité.
Ah, oui. Pour revenir sur le Paris Saint-Germain et cette finale, Arthur, est-ce que c'est pas justement le pire adversaire pour le PSG? Jimmy en parlait d'une adaptation peut-être de Luis Enrique dans la tactique pour s'adapter à ce jeu des Gunners. Est-ce que c'est pas le pire? Parce qu'on a vu face au Bayern, on disait c'est une finale avant l'heure, mais il y avait des espaces énormes en défense. Le Bayern, là, t'auras pas la même chose hein, en finale. Hein.
Non, mais là où d'abord où Jimmy a raison, c'est oui, forcément, tactiquement, il va devoir s'adapter et prévoir certains plans. Moi, il y a une scène qui m'a marqué. Même si dans le staff, on m'a dit que c'était déjà le cas depuis le début de saison, c'était il y a 2 semaines, lors d'un entraînement de veille de match où on voyait les gardiens du Paris Saint-Germain travailler les dégagements après corner, alors que certains de leurs coéquipiers venaient les gêner avec des espèces de canapés et les bousculer un petit peu sur les coups de pied arrêtés. Donc je me dis que ces scènes-là et ces détails-là, Paris va forcément s'y adapter et s'y préparer un moment. Mais sur l'histoire du pire adversaire, il y aura quand même des ouvertures en fait. Là où tu me dis qu'il y aura peut-être moins d'espace, je pense qu'il y en aura quand même et on l'a vu l'année dernière. Alors même si pour continuer encore une fois ce que vient de dire Jimmy,
l'année dernière c'est pas la même équipe.
Ils ont beaucoup recruté, ils ont gagné je trouve en maturité, ils ont appris à mieux souffrir et ça on l'a pas encore dit mais ils ont appris vraiment à mieux souffrir et la preuve en est cette fin de saison où ils arrivent quand même à remporter ce titre-là mais... Ça va se jouer sur des détails. Alors, ce sera très serré, c'est sûr. Mais pour moi, il y aura quand même des espaces.
C'est intéressant que tu parles de l'an dernier. Julien, évidemment, tu as suivi cette rencontre l'année dernière, cette demi-finale. Donc, victoire du PSG à l'aller, 1-0. Et puis, au match retour, une victoire 2-1 pour les Parisiens. Ça ne sera pas du tout la même configuration. Bon, déjà, d'abord, parce que c'est une finale, c'est sur un match. Mais aussi parce que Arsenal a évolué en un an.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça avait été deux matchs très serrés. Hein. Il faut quand même se rappeler aussi.
Gros match de Donnarumma.
Les arrêts de Donnarumma sur Odegaard au retour, sur Trossard et Martinelli à l'aller, tout ça. S'il y a, juste pour finir un petit peu ce que venaient de dire les garçons et Arthur, s'il y a une équipe qui peut faire déjouer le PSG dans le jeu, qui contrôle le tempo d'une rencontre à merveille, c'est cette équipe d'Arsenal. C'est là où elle est très forte. C'est-à-dire qu'elle contrôle le match avec ballon et sans ballon mieux que n'importe qui, même mieux que le PSG, je trouve. Donc ça, c'est sûr que ce sera une dynamique qui va être très intéressante le jour du match. Qui aura le ballon, qui aura le contrôle, et même si tu as le contrôle sans ballon ou avec ballon, qu'est-ce que l'adversaire va pouvoir faire. Mais oui, cette équipe-là, elle a changé, elle est beaucoup plus pragmatique. Benjamin l'a dit, tout le monde l'a dit un petit peu déjà. Pour moi, elle est plus forte que la saison dernière, mais dans un registre un petit peu différent. Mais je pense que le PSG est plus fort que la saison dernière aussi. Lui-même dans un registre peut-être plus pragmatique, comme l'a dit Jimmy, plus polyvalent même dans un sens, mais cette équipe d'Arsenal aussi. Et finalement, tu as beaucoup de points communs aussi. Et entre Arteta et Luis Enrique, même si Arteta est beaucoup plus jeune, il n'a pas du tout le CV ou le palmarès de Luis Enrique, mais tu vois quand même des similitudes. Et pareil entre les deux équipes, pour moi, même dans, encore une fois, dans des styles différents.
Alors restez avec nous, on va parler justement des hommes forts d'Arsenal, on va dire un mot bien sûr de Mikel Arteta, peut-être les faiblesses aussi des Gunners, et puis votre 11 type dans un instant, deuxième partie d'After Paris tout de suite. Deuxième partie d'After Paris, une émission spéciale pour parler justement de cette finale de Ligue des Champions à venir le 30 mai entre Arsenal et le PSG. On s'intéresse à l'adversaire du Paris Saint-Germain avec Julien Laurence, avec Benjamin, supporter des Gunners, fondateur d'Arsenal France, donc association. Il y a beaucoup de supporters des Gunners en France, hein, mais bon. Ouais. On a eu aussi beaucoup de Français qui sont passés par Arsenal. D'ailleurs, on a une pensée dans ce podcast pour Manu Petit, qui est membre de la Dream Team.
Ah. Il est pas loin, hein. Attention.
Il est pas très loin.
Ouais, il est pas très loin.
J'irai le voir.
Il est rose. Tu le repéreras facilement à sa chemise. C'est un petit indice.
Et puis tiens, petite parenthèse. On va retrouver pour tous les fans d'After Paris et les fans du PSG, Arteta et Gabi Heinze. Parce que voilà, les deux hommes sont désormais associés. Gabi Heinze,
ça fait tellement mal, Gabi,
qui est l'adjoint d'Arteta. Un mot peut-être sur ce duo.
Moi, c'est ces deux joueurs déjà.
Arteta, il a passé un an et demi.
On peut rendre hommage à un ancien de la maison RMC, parce que les deux ont été recrutés par Luis Fernandez.
Luis Fernandez, bien sûr.
Quand il était entraîneur du PSG, moi, Arteta, franchement, on avait vu arriver un gamin de 18 ans, je crois qu'il a quand il est au PSG.
Du Barça.
Et la maturité sur le terrain, etc., c'était exceptionnel. Après, malheureusement, il part trop tôt pour moi. Il part aux Rangers. Personne n'avait trop compris à l'époque pourquoi il ne s'était pas installé un peu plus dans la durée au PSG. Et Gabi Heinze, Gabi Heinze, c'était exceptionnel aussi. Mais malheureusement, après, il y a eu le passage à Marseille qui fait que les supporters parisiens, il y en a beaucoup qui ont ça en travers de la gorge quand même. Arteta, il a su rester clean jusqu'au bout. Et on n'aurait pas pu envisager.
Ça donne un peu de piment à cette finale, Julien. Voilà, c'est retrouvé.
Il est champion en plus.
Il est champion avec lui-même en 2010, bien sûr.
Arteta, même s'il n'est pas resté longtemps au PSG, il a laissé, comme le disait Jimmy, une très bonne image. Et Gabi Heinze,
de son temps à parler, Gabi Heinze aussi, hein. C'était exceptionnel, Gabi Heinze au PSG.
D'où
les
difficultés d'accepter la suite, Julien.
Ouais, c'est vrai, tout à fait. Mais avant la rencontre la saison dernière, mais pas la demi-finale, le match de poule où il y a 2-0 à l'Emirates. C'était d'ailleurs le jour de l'anniversaire d'Arteta. Si mes souvenirs sont bons, je crois. Ouais, en tout cas, il y a un des matchs le jour de son anniversaire. Je lui avais envoyé une petite photo de lui avec le maillot du PSG où il est très très jeune, comme l'a dit Jimmy. Il arrive tellement jeune quand tu vois par rapport à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a gardé un très très bon souvenir. Il y a des restaurants où il allait à l'époque, qu'il adorait, qui sont encore là. Et d'ailleurs, je crois qu'il est allé à Paris il n'y a pas très très longtemps aussi, mais plutôt en famille. Donc oui, ça reste un très bon souvenir pour lui. Et puis c'était quand même, au Barça, il était en équipe réserve. Quand Luis va le chercher, c'est pour le mettre vraiment ses vrais débuts chez les pros quand même. Donc ça l'a beaucoup marqué. Ouais.
Bon, parlons un petit peu des faiblesses des Gunners. On a parlé des forces de cette équipe. Est-ce que, Benjamin, toi, tu as identifié, puisque tu as vu tous les matchs des Gunners cette saison, des faiblesses qui pourraient permettre au PSG de faire la différence?
Bien sûr. Déjà, nous, on est conscients qu'il y en a une qui va être très, très compliquée. C'est que notre arrière-droit titulaire, il ne sera pas là. Et il est face sûrement au meilleur joueur actuel.
Donc Ben White est blessé.
Je parle surtout de Timber. Parce que même Ben White, déjà, on s'inquiétait d'avoir Ben White contre Kvara. Ouais. Mais là, au final, ça va être Mosquera. Mosquera qui n'est pas si mal sur la fin de saison, mais qui n'est pas...
Qui est central de
formation. C'est sa première saison. C'est un joueur qui est jeune. Et il va être sur le joueur qui est peut-être le meilleur joueur du monde en ce moment. Donc ça, c'est ce qui nous fait peur un peu. Après, on se dit que tout le reste, En fait, en gros, on sait qu'on est, on va jouer face à une équipe qui est exceptionnelle. Donc, on sait que ça peut arriver de partout, que de l'autre côté, ça sera Désiré Doué, que ça sera compliqué aussi.
Oui, Calafiori avait souffert d'ailleurs.
Oui, aussi. Ouais.
Un peu. Ouais. Si, donc, s'il y a une faiblesse, c'est peut-être les latéraux.
Exactement.
Moi, je suis d'accord avec toi, Benjamin. Après, moi, j'attends la bataille du milieu. Moi, c'est la bataille du milieu qui va m'intéresser le plus. Parce que, évidemment, qu'il y a le sujet Warren Zaïre-Emery ou Fabian Ruiz au milieu. Ça fait partie des interrogations avant cela. Mais quoi qu'il arrive, la bataille du milieu va être hyper intéressante. J'ai envie de voir ce que ça donne avec Rice, avec Lewis Kelly. Voilà, ces duels-là vont être impressionnants. Et pour moi, c'est là que ça va jouer. Les attaquants, on sait qu'ils sont au niveau, que ce soit Saka d'un côté, Gvara de l'autre, tu en parlais à l'instant, les défenseurs aussi, la charnière des Gunners, c'est impressionnante aussi, et Saliba est vraiment en très grande forme et termine très bien cette saison. Donc voilà.
Pour moi, Julien, c'est toi qui as envoyé un message à Arteta l'année dernière, tu as peut-être envoyé un message à Luis Enrique pour lui dire faut insister sur cette faiblesse des Gunners.
Il n'a pas besoin de nous pour le savoir, hein. C'est sûr que si Timber n'a
rien
pas.
Ça parce qu'il n'a pas son 0-6, Luis Enrique, c'est un des rares qu'il n'a pas.
En plus, j'ai pas le 0-6.
Ah, s'il écoute After Paris, mais... on va faire quelque chose.
On va faire ce qu'il faut. Mais c'est vrai, Mosquera, si c'est lui qui joue, parce que Timber pourrait revenir à l'entraînement collectif. Ouais, mais après, à cause de match, hein, ça fait quand même 3 mois qu'il n'a pas joué, donc ouais. Ce serait compliqué. Et si c'est Mosquera, oui, c'est sûr que Vara contre Mosquera, ça peut être compliqué, très compliqué. Après, tu défends aussi collectivement Arsenal, pour revenir au point qu'on avait tout à l'heure sur ce contrôle sans ballon et cette structure défensive sans ballon qui est exceptionnelle. C'est pas que Mosquera non plus en 1 contre 1 tout le temps contre Kvaratskhelia, mais c'est sûr que de ce côté-là, ça va jouer. De l'autre côté, peut-être un petit peu moins, que ce soit Calafiori ou Incapié, mais je suis d'accord avec Arthur aussi, le milieu de terrain et des choix importants à faire pour Arteta. Est-ce que tu relances dans un sens Zubi Mendy qui tire un peu la langue ces dernières semaines, qui n'a pas non plus été toujours impérial dans les gros matchs de championnat, notamment, par exemple. Donc, lui, on a vu Lewis Kelly, tu peux aussi aller très offensif et faire Odegaard aisé comme lors du match contre Burnley, mais ça, on y croit forcément beaucoup moins. Donc, ce sera intéressant de voir ça. Et pareil pour Luis Enrique avec Warren ou Fabian Ruiz.
Alors, est-ce que aussi cette équipe d'Arsenal peut pourrir le match? Alors attention, hein, quand je dis ça, c'est une qualité.
Rythme, comme disait Julien.
Désormais, c'est peut-être que cette équipe d'Arsenal qu'on présentait comme une équipe de gentils, ben, elle est devenue un peu une équipe de méchants, en tout cas de ceux qui arrivent à pas se laisser faire par l'arbitre, voire même à l'influencer. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? Est-ce que ça peut être un des éléments?
C'est une finale. Hein.
Julien.
Moi, non, mais alors, le vice, ils l'ont un petit peu, ça c'est sûr, ça se voit. C'est une équipe qui a grandi ensemble, qui devient de plus en plus mature, je trouve, et mûre. Et ça, c'est très intéressant. Mais pourrir le match, non. Et puis, c'est une finale de Ligue des Champions. Des matchs, ça se pourrit pas en finale de Ligue des Champions. Ils sont pas là pour devenir le Wimbledon de 1988. Enfin, tu vois, c'est pas non plus.
non, bien sûr.
Agressif et tout ça. Mais oui, ça, ils savent faire. Ils savent ralentir le jeu. Savent faire, ça c'est sûr, mais je pense que n'importe quelle grande équipe comme ça qui a cette identité là un petit peu peut-être plus défensive que celle du PSG sait faire ce genre de choses là.
Moi, c'est vrai que c'est une facette que je ne connaissais pas trop Arsenal, et notamment sur la demi-finale contre l'Atlético, j'ai pu voir que par moment ils savaient très bien faire. Mais comme disait Julien, la finale, moi je pense, ne se jouera pas là-dessus. Pour revenir sur les faiblesses, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que un des axes de progression d'Arsenal, même si Julien le dit souvent, il fait un énorme boulot sans ballon, c'est peut-être l'inefficacité relative de Gyökeres. Je pense que ce sera lui qui sera amené à jouer en pointe, et je pense que Pacho sur Gyökeres, c'est pas mal aussi, un match-up qui est pas mal aussi. Ça peut peut-être aussi être voilà, s'il y a un petit, parce que c'est vrai que sur les côtés ils ont des bombes, l'axe central c'est monstrueux, le milieu de terrain, et peu importe la formule que tu choisis, t'as des options de partout, etc. Voilà, s'il y a peut-être un poste où c'est relativement un petit peu en dessous que des autres, c'est peut-être celui-là de numéro 9.
Justement, tiens, on va parler des individualités à travers notre séquence mythique Jingle Unai.
Qui est meilleur? Qui est meilleur?
Mais oui, parce que d'ailleurs, on
sait que Unai,
Unai Emery, hein, qui a remporté l'Europa League avec Aston Villa. Évidemment, dans After Paris, on ne pouvait pas passer à côté de ce petit hommage. Je vous ai demandé de faire la meilleure compo possible. Vous prenez les deux effectifs, sans parler des blessés potentiels. Hein. Et on va commencer par notre invité Benjamin. Tiens, voilà, honneur à Arsenal. Benjamin, qui, on va voir ton, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ton équipe type en prenant les deux effectifs. Alors, dans les buts, il y a une sorte d'unanimité, je pense. Entre Raya et Safonov, je crois que vous avez tous mis Raya. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des gardiens.
Ah, c'est bizarre ce qu'on dit. J'ai des réserves sur Safonov, mais là, personne ne met Safonov. C'est curieux quand même.
Une différence, Jimmy. Ah, et toujours pour exagérer les choses.
Ah non, mais il est extraordinaire, Safonov, mais par contre, dès que je suis
allé. Est-ce que tu vas croire Julien Laurent si Julien te dit que les dégagements en touche étaient faits exprès ou pas?
On va parvenir sur ce débat, s'il vous plaît.
Julien, il ne me croit toujours pas. Ça fait deux semaines, j'essaie de convaincre.
Raya, parle-moi de ce Raya.
Merci.
Raya, Benjamin. C'est quand même un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Et c'est vrai tu me disais avant l'émission, il est peut-être un peu sous-coté.
Non, mais on peut même dire que c'est le meilleur. Quel gardien est meilleur à moins qu'on me cite un gardien qui est meilleur sur cette saison.
Non.
Il est exceptionnel depuis 3 ans. Et comme on en parlait avant l'émission, je pense qu'il a aussi l'image un petit peu, le fait qu'il ne soit pas titulaire en équipe nationale. Ça n'appartient qu'à eux. Ils veulent mettre Unai Simon, ils mettent Unai Simon. Mais avec Arsenal, il est extraordinaire. Franchement, ça fait 3 ans qu'il est. Il fait des arrêts de folie. Il a. Alors, ça, c'est un peu son. Moi, ça ne me gêne pas parce que je sais qu'on est obligé de passer par là quand on a un gardien qui tente de relancer vite et de casser des lignes. Il va avoir du déchet et il va te coûter des occasions à certains moments, mais il en apporte tellement. Ça veut dire que des fois, quand il va trouver dans le cœur du jeu tout de suite, soit Rice, soit Gyökeres qui va redescendre, soit Martinelli. Il te ramène des occasions régulièrement, donc il prend des risques, c'est un gardien qui prend des risques, mais pour moi il est exceptionnel.
Ceux qui n'ont pas l'image, on va quand même citer ta compo, et puis après vous pouvez parler Arthur, Jimmy, même Julien cette compo, parce que Benjamin il nous met une charnière 100% Arsenal, Saliba, Gabriel, sur les latéraux il n'y a pas photo, Hakimi, Nuno Mendes. Un Pacho aurait pu quand même faire partie de l'équipe, Arthur. Je pense que toi tu l'as mis en défense centrale.
Oui, j'ai mis plutôt William Pacho. Après là, Jimmy m'enlève le mot de la bouche. Ça joue à quoi? Ça joue à rien. Ça joue à rien sur la saison. Ça joue à rien entre les deux.
En revanche, que vous mettez au milieu, parce que sais que toi tu mets Declan Rice, Benjamin.
C'est là le vrai sujet.
Avec Neves et Vitinha, et toi t'en mets pas du tout. Pas de joueur d'Arsenal, Arthur.
Non, alors après c'est purement du ressenti, et je me base aussi sur ce que, et Julien en parlait, sur ce que j'ai vu l'année dernière sur la double confrontation. J'avais été déçu par Declan Rice, même s'il avait été loin d'être mauvais, mais j'avais été un peu déçu. D'où le fait que je mette les trois Parisiens.
Non. Moi j'ai fait comme toi, j'ai mis Rice.
Moi, pour être très franc avec vous, je mets Rice avant tout autre joueur au monde. Comme ça, c'est rapide.
J'irai pas jusque-là non plus, mais Rice, pour moi, je le mets.
L'avis de Julien m'intéresse.
Justement, sur Declan Rice, peut-être un mot. Est-ce que toi, tu le mets dans l'équipe du PSG, Julien, au milieu, tous les jours, titulaire?
Pour moi, il remplace Rice. Pour moi, c'est un niveau. Bon, il a atteint un niveau exceptionnel là, de maturité, de puissance. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment dans l'utilisation du ballon. Dans son jeu long aussi, même dans sa faculté à casser les lignes avec des passes qu'il est en train de faire de plus en plus. Mais je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire là-dessus. Donc, pour moi, il a atteint un niveau, c'est chapeau 1. Mon équipe, c'est quasiment celle de Jimmy, mais j'ai Saka à droite plutôt que Doué parce que j'aime bien un gaucher à droite et un droitier à gauche.
Ah, d'accord. Saka, Doué, c'est vrai que là, c'est un problème de riche. Toi aussi, t'as mis Saka, Benjamin, évidemment, en tant que supporter des Gunners. Dembélé et Gvara sont dans l'équipe, ça pour tout le monde, on est tous d'accord. Oui. Voilà, il y a ce petit doute.
Doué, parce que vu que c'est lui qui va mettre doublé en finale, j'étais obligé de le mettre dans mon équipe. C'est l'âme des finales, Désiré Doué. Donc c'est pour ça qu'il a pris le dessus sur Saka.
Bon, n'hésitez pas vous aussi, vos compos type qui est meilleur. Vous pouvez jouer aussi sur YouTube en vous laissant votre 11 type en prenant les effectifs d'Arsenal et du PSG. Et encore une fois, il n'y a que des bons joueurs partout, donc on va se régaler le 30 mai pour cette finale. C'est le moment de remercier Julien. Merci beaucoup, Julien. C'était un plaisir de t'avoir dans After Paris pour cette saison.
Et vraiment,
et bonne finale.
Si je peux me permettre, ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast, là, ça vaut vraiment le coup de se le faire sur YouTube. Pour voir Julien Laurence en vrai, n'hésitez pas. C'est sur YouTube de l'After.
Julien Laurence en vrai.
Ça vaut vraiment le détour.
Ouais,
autant pour nous, non, mais on va vous faire en post-prod peut-être juste un plan.
Il a un Picasso derrière lui, c'est un indice.
Juste avec
Picasso.
Une illus d'un côté, Julien Laurence de l'autre, ça vaut vraiment le coup.
Ah là, pas de doute.
Merci beaucoup à Benjamin. Je rappelle, fondateur Arsenal France.
Salut Benjamin.
Les 20 ans l'année prochaine.
Les 20 ans. J'attends Julien aux 20 ans avec nous.
Ah oui, bien sûr. Avec plaisir.
Attends, il est très occupé. Là, il dit avec plaisir à l'antenne.
Là, il pourra venir en famille.
Merci mille fois, Benjamin, d'être venu. Et on embrasse évidemment tous les supporters d'Arsenal qui nous regardent. On embrasse les supporters du PSG. Jimmy, merci. Arthur, merci.
Salut François, à la semaine
prochaine. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez cet épisode avant de se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode à quelques jours de la grande finale de Ligue des Champions PSG-Arsenal. Salut à tous. Bye bye.
RMC After Paris.